L'Italie est faite, il convient désormais de faire les Italiens. Phrase attribuée à Massimo D'Azeglio, président du Conseil du Royaume de Piémont de 1849 à 1852.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
De 1861 à 1946, l'Italie a été une monarchie avec deux phases distinctes. Une période libérale qui s'étend jusqu'à l'instauration de la dictature fasciste, puis la vingtaine d'années qui a vu le fascisme gouverner l'Italie, mais dont le désastre final emporta la monarchie, nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est la première période qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire le moment où s'organise autour du statuto, c'est-à-dire de la constitution, accordée au Piémont-Sardaigne par le roi Charles-Albert en 1848, et qui est étendue à l'ensemble de l'Italie après la proclamation de l'unité. Dans un premier temps, voyons comment fonctionnent les institutions de la monarchie italienne. En premier lieu, il y a le souverain. Il est issu de Casa Savoia, c'est-à-dire de la maison de Savoie. C'est une vieille et prestigieuse maison princière italienne, maison ducale en 1416, maison royale en 1713. La dynastie des Savoies bénéficie du prestige de l'histoire et de son rôle au cours du Risorgimento. Le premier roi est Victor Emmanuel II. Il garde d'ailleurs le numéro 2, alors qu'il aurait pu prendre, imaginez, Victor Emmanuel Ier, roi d'Italie. Non, il a préféré garder la nomenclature qu'il avait lorsqu'il était souverain piémontais. Il s'installe en 1870 dans l'ancien palais pontifical du Quirinal à Rome. Si Cavour reprend à son compte le principe d'Adolphe Thiers au sujet de Louis-Philippe, le roi règne mais ne gouverne pas, le premier monarque italien souhaite jouer un rôle politique, mais parvient, à vrai dire, peu à influencer la vie publique. Il meurt en 1878 à l'âge de 57 ans. Son fils, Umberto, lui succède. À la différence de son père, qui était francophile, Humbert Ier est fasciné, comme une grande partie d'ailleurs des élites italiennes, par le dynamisme de l'Empire allemand, et il soutient un rapprochement entre Rome et Berlin. C'est un homme d'ordre, et il va se montrer favorable à la politique répressive du général Bava Beccaris lors des grandes manifestations de Milan en mai 1898, qui auraient fait, selon les autorités, 82 morts. Cette position lui vaut la haine des milieux révolutionnaires et anarchistes, et ce qui aboutit à son assassinat le 29 juillet 1900, mais comme le disait le roi Humbert lui-même, ce sont les risques du métier. Le nouveau souverain est Victor Emmanuel III, fils du précédent. Il a 30 ans et il pratique plus aisément que ses prédécesseurs l'art d'être un monarque constitutionnel. Féru de géographie, d'histoire, de numismatique, le souverain est mal à l'aise en public, quelque peu complexé par une petite taille. Il encourage par contre un rapprochement avec la France, où il se rend en 1903, et encourage également la politique sociale menée par Giovanni Giolitti. À côté de la monarchie, il y a également le Parlement qui joue un rôle important. Il est composé de deux assemblées. D'abord le Sénat, installé au Palazzo Madama. Les sénateurs sont nommés par le souverain, souvent issus des élites sociales, militaires, intellectuelles et artistiques de l'Italie. Puis la Chambre des députés, qui siège au palais Montecitorio. Le système électoral, dans un premier temps, est censitaire. Les 500 000 électeurs sont les hommes âgés de plus de 25 ans, sachant lire et écrire et payant au minimum 40 lire d'impôts par an. La loi de 1882 abaisse l'âge à 21 ans et le cens à 20 lire, ce qui fait que le corps électoral passe de 662 000 personnes à un peu plus de 2 millions. Le suffrage universel masculin est presque atteint avec la loi de 1912. Celle-ci accorde le suffrage à tous les hommes, sauf les analphabètes de moins de 30 ans. Finalement, le suffrage universel masculin total sera accordé en 1919, après la guerre. La vie politique est dominée par un vaste ensemble libéral. C'est jusqu'en 1876 plutôt le centre droit qui domine la vie publique, et puis à partir de ce moment-là, un centre gauche qui va, bon an mal an, gouverner l'Italie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quelques grandes figures se détachent, Gaetano De Sanctis, entre 1876 et 1887, Francesco Crispi, entre 1891 et 1896, et enfin Giovanni Giolitti, qui va diriger trois gouvernements, interrompus néanmoins par quelques autres, entre 1903 et 1914. Mais derrière cette façade parlementaire, il y a des difficultés. La première difficulté, c'est indéniablement des problèmes de corruption qui se posent tout particulièrement dans les provinces du Sud. Et puis, une autre difficulté, c'est que l'unité italienne est assez récente. Il faut désormais faire des Italiens. Comment faire les Italiens ? D'abord par l'école. La question de l'analphabétisme est extrêmement importante, puisque encore, à la veille de la Grande Guerre, on estime à 40% de la population qui ne maîtrise pas l'écriture et la lecture. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que malgré quelques lois scolaires, comme la loi Casati par exemple, eh bien, il y a une différence indéniable entre le Nord et le Sud. Le taux d'alphabétisation est, au début de l'unité, d'environ 46% en Piémont et en Ligurie, de 26% en Toscane, mais il n'est que de 10% en Sardaigne ou de 14% en Calabre. Bref, il va falloir à nouveau et de manière continue essayer d'alphabétiser les Italiens et les Italiennes. Mais il y a également une culture nationale qui peut passer par la volonté officielle de nationaliser la monarchie des Savoies. C'est en effet à Rome que les monarques décédés vont reposer, non pas dans la basilique de Superga à Turin, mais dans le Panthéon de Rome, qui est choisi comme lieu de sépulture, une espèce de Saint-Denis à l'italienne. Ils sont donc inhumés, Victor Emmanuel II, Humbert Ier et son épouse, la reine Marguerite. Sur de nombreuses places d'Italie se dressent les statues du roi Victor Emmanuel II, présenté comme père de la patrie. On construit également, à partir de 1885, sur le flanc nord du Capitole de Rome, cet impressionnant monument inauguré par Victor Emmanuel III en 1911 afin de célébrer le cinquantenaire de l'unité italienne. Toute cette politique vise finalement à nationaliser, à rendre l'Italie comme patrie commune d'une péninsule où, finalement, les questions régionales semblent encore extrêmement importantes. Il faut souligner aussi le rôle qu'a pu jouer Giuseppe Verdi. Né en 1813, il est apparu comme le musicien patriotique par excellence. Il ne faut pas exagérer le rôle qu'a pu jouer Nabucco et son cœur des esclaves, car en 1842, il avait tout de même dédié cette opéra à la fille du vice-roi autrichien, ce qui était un signe plus de vassalité vis-à-vis du pouvoir des Habsbourg que de patriotisme italien. Ce qui est vrai, c'est que ce cœur des esclaves deviendra par la suite une espèce de deuxième hymne à la nation italienne, et que le nom de Verdi servira d'acronyme pour Vittorio Emanuele Re d'Italia, Victor Emmanuel, roi d'Italie. Les opéras patriotiques viennent par la suite, avec les Lombards à la première croisade en 1843, Jeanne d'Arc en 1845, la bataille de Legnano en 1849. Mais c'est qu'au cours de la décennie 1850 et celle de 1860, les œuvres de la pleine maturité de Verdi apparaissent avec Rigoletto, le Trouvère, la Traviata, le Bal masqué, la Force du destin, Don Carlos et Aïda. Autre élément qu'il faut voir aussi vis-à-vis de l'Italie de cette époque, c'est le choix de politique étrangère. L'Italie unifiée a voulu véritablement jouer dans la cour des grands. En 1882, elle avait eu la possibilité de s'allier avec l'Empire austro-hongrois et surtout l'Empire allemand, dans le cadre de la Triple Alliance. Mais les difficultés qui étaient apparues au début du XXe siècle à propos des populations italophones de l'Empire austro-hongrois avaient quelque peu détaché cette alliance, les liens s'étant petit à petit dissous. Par contre, l'Italie s'était également engagée dans une politique coloniale. En 1879-1880, les Italiens prenaient pied en Somalie, en Érythrée, avaient échoué en 1896 à prendre l'Éthiopie et par contre s'étaient emparés en 1911-1912 de la Libye, qui était alors province ottomane. Mais surtout, à partir du début du XXe siècle, eh bien, l'Italie s'est rapprochée de la France, de la Grande-Bretagne et même de la Russie, ce qui fait qu'en 1914, personne n'est véritablement étonné de voir que le gouvernement italien, au moment de la crise européenne, choisit la neutralité. Ce n'est que quelques mois plus tard que l'Italie choisira de rentrer aux côtés des Alliés dans le premier conflit mondial.